Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Une mesure du dernier budget Freeland qui a fait énormément réagir, là, la hausse de la taxation sur le gain en capital. Après 250 000 $, la proportion passe de 50 % à 66 %. Et là, tu as le ministre des Finances du Québec qui s'est dit « Caroline, pas fou ça. J'ai un déficit de 11 milliards. Ça peut me rapporter 3 milliards en l'espace de quelques années. Je vais y penser. » Salut Emmanuel.
Bonjour.
La réflexion n'a pas été très longue.
Sur le bobo. Ben non, monsieur Girard, le ministre des Finances, qui nous disait au lendemain du budget, écoutez, il faut qu'on analyse ça, je vais prendre quelques semaines, etc. Finalement, le verdict est tombé assez vite. Puis il y a peut-être une occasion politique manquée là-dedans, je pense, pour le gouvernement Legault. C'est sûr que le calcul, tu l'as fait, il est facile, hein? Si Québec s'harmonise, ben Québec augmente ses revenus. Le calcul, c'est que c'est en moyenne à peu près 800 millions par année. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les calculs d'Ottawa, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Ottawa a prévu, OK, que cette mesure sur le gain en capital va générer une vente de feu d'ici le 26 juin. Parce que les gens vont se dire, ben, je suis aussi bien de faire mon gain en capital à un taux d'inclusion de 50 %,
ben oui,
que d'attendre au 1er juillet puis qu'il y a un taux d'inclusion de 66 %. Tu sais, c'est pas. Alors, Ottawa a prévu que de sur son horizon financier, de toutes les années où ces mesures-là vont être en place, c'est laquelle l'année qui va être la plus payante pour les coffres de l'État?
La première.
C'est la première. Puis c'est énorme la différence, là. Le fédéral prévoit que 24-25, cette année fiscale, cette mesure-là va rapporter 6,5 milliards. Alors que dans les années suivantes, c'est 3 milliards. Pourquoi? Ben parce que il va peut-être faire moins sur chacun, mais il va avoir tellement de ventes d'actifs d'ici le 26 juin que ça va générer énormément de revenus. Alors là, Monsieur Girard, tu t'as mis le doigt sur le bobo, il a fait le calcul, ben, il y a une vente de feu qui s'en vient. C'est comme, tu sais, passer go et récolter 200 $ là. C'est de l'argent qui va rentrer tout seul, qui va m'aider à éponger mon déficit cette année, parce que le calcul de Québec, c'est que le déficit n'est pas vraiment structurel, c'est causé par les circonstances, etc. Et ça va régler une partie de mon problème. Puis après ça, ben, il va avoir de l'argent de plus qui va rentrer chaque année sans que j'ai levé le petit doigt, puis je peux toujours blâmer Ottawa. Donc, on comprend qu'un d'un point de vue financier et budgétaire, M. Girard ait fait ce calcul-là. Mais en même temps, moi, je trouve que politiquement, il y a il y a vraiment une occasion manquée là-dedans. Parce que le gouvernement Legault vient de passer les trois dernières semaines à se déchirer la chemise sur le fait que Ottawa, tu sais, est dans un mode d'ingérence dans les champs de compétences des provinces et Ontario. Tu me diras que la taxation du gain en capital, ce n'est pas une ingérence mais dans les faits, c'est une mesure unilatérale qu'a fait Ottawa.
C'est une ingérence dans mes poches, par exemple.
Ça, c'est sûr. Hein? Tous ceux qui avaient l'intention de vendre un immeuble ou des actifs, là, c'est une ingérence dans leur poche, c'est certain. Mais il y avait un moyen pour le gouvernement Legault de dire, nous, on n'embarque pas dans la parade. Puis, c'est pas inusité, parce que la preuve, c'est que quand Ottawa a annoncé qu'il allait offrir un congé de TPS sur les constructions neuves pour du logement locatif, ben Québec a dit, nous, on le fait pas. Donc, Québec, c'est déjà arrivé que Québec n'ait pas embarqué dans des mesures fiscales d'Ottawa. Je veux dire, la tradition, c'est que tu veux que ça s'harmonise le plus possible, mais Québec n'était pas obligé de le faire. Puis imagine le message qu'il y aurait eu si M. Legault avait profité de cette mesure-là pour affirmer un nationalisme qui est économique.
Et voilà.
Parce que là, on est pris dans un nationalisme identitaire dont on a un peu comme poussé les limites, là, tu sais, la langue, la laïcité, etc. Le nationalisme et l'autonomisme en termes de pouvoir, ben là, on attend le 24 juin, là, voir s'ils vont s'entendre sur l'immigration. Là, ça prendra un petit gain, là, parce que sinon, on n'exclut pas qu'il y ait un référendum. Tu sais, c'est un peu comme laborieux, là. Ça, Là, c'est une mesure super facile où tu dis, nous, au Québec, on n'embarque pas. Nous, au Québec, on veut des investissements. Le problème du Québec, c'est, comme partout ailleurs au Canada, la productivité, le manque d'investissement, le manque, tu sais, il faut stimuler la croissance économique. On veut rattraper l'Ontario. Tu fais une conférence de presse, tu dis tout le monde, venez investir ici, nous, on vous le taxera pas davantage, votre gain en capital. Ça aurait été un signal économique extraordinaire. Puis non seulement ça, c'est que dans la mesure où les économistes s'entendent pour dire que cette augmentation des impôts sur le gain en capital va inévitablement avoir un effet sur les investissements, c'est totalement désagréable pour les gens qui ont des plexes, là, comme tu venais d'en parler avec ton invité précédent, dont c'est le petit pécule, le fonds de retraite, etc., et qui seront taxés davantage. Mais le gros problème, c'est que ça décourage finalement des PME, des propriétaires de petites entreprises, etc., parce que eux savent qu'en bout de ligne, plus ils investissent, plus ils font grandir leur entreprise, ben plus ils vont être taxés à la fin de l'exercice. Alors, il y aurait eu un message très, très fort, je pense, pour nos propres entreprises au Québec, nos propres PME, que de dire ça. Mais on sent qu'à un moment donné, l'argent, ça pousse pas dans les arbres et l'attrait de revenus faciles, sans controverse, que le débat va durer jusqu'à vendredi, puis après ça, c'est quand même Ottawa qui va porter le chapeau d'avoir augmenté le gain en capital, mais a eu un peu le dessus, tu sais. Mais moi, je te dis qu'avec cette mesure-là, là, M. Girard, là, il peut arrêter de nous faire croire qu'il s'en va à Ottawa comme candidat pour Pierre Poilievre.
Ils n'attendront pas l'appel. Restez pas à côté de votre téléphone, M. Girard. Attendre l'appel de Pierre Poilievre.
Il y a eu le 7 millions des Kings, 11 milliards de déficit.
Deuxième prise.
Il a appuyé une taxe qui va finir par faire le plus mal.
Troisième prise, retirée.
À la classe moyenne aisée, regarde là. Monsieur Girard, il ne sonnera pas le téléphone.
Non. Alors, je suis tellement d'accord avec toi. Tellement d'accord avec toi, Emmanuel. Puis moi, ce qui me choque aussi dans cette histoire-là, puis toi, tu étais au huis clos, tu as les fins détails du budget, mais ça nous a été présenté comme une mesure là, qui allait viser les ultra-riches. Là. On entend souvent Jack Meeting dire ça, parce que c'est rendu clairement lui, le ministre des Finances là, du Canada, puis visiblement ministre des Finances du Québec aussi. On vise les ultra-riches, les ultra-riches. Moi, ce que je lis, ce que j'entends depuis quelques jours, là, c'est ça. C'était des gens là qui ont gagné 40-50 000 $ dans leur vie, qui ont économisé, qui ont mis de l'argent de côté, qui ont ménagé, qui ont fait un investissement dans un plex ou dans un chalet. Puis bon, au fil des ans, ben le marché prend de la valeur. Puis c'est ces gens-là qui vont être pénalisés. Les ultra-riches, je vais vous donner un scoop, les ultra-riches, là, ils ont des excellents fiscalistes. Puis ils vont trouver une façon pour pas être trop pénalisés. Monsieur, madame, tout le monde, là, c'est eux qui vont pâtir à cause de ça.
Mais non, c'est sûr, parce que le gouvernement fédéral fait le calcul que c'est sûr qu'en termes de revenus pour l'État et en termes d'impact à chaque année, ce sont les gens qui vivent de leur gain en capital qui vont être le plus pénalisés. Donc, c'est vrai que ce sont les ultra-riches. Les gens, là, le calcul, c'est à peu près qu'ils vivent, tu sais, sur des revenus de 1,4 million par année et qui vivent des revenus de leurs investissements, etc., de leur gain en capital. C'est eux qui vont être le plus pénalisés. Puis l'argument, c'est qu'il y a une équité fiscale là-dedans parce que jusqu'ici, en bout de ligne, à cause des règles passées, ces gens-là finissaient par payer moins d'impôts que les gens de la classe moyenne qui gagnaient 90 000 par année. J'en suis. Mais c'est oublié que à chaque année, cependant, il y a tout un lot de gens qui sont les gens qui ont le moins les moyens qui vont être le plus pénalisés. Puis je reviens à l'argument sur la productivité, l'investissement au Canada. On est quand même dans une société où toute la richesse de cette classe moyenne aisée, là, on s'entend, est concentrée dans de l'immobilier. C'est du capital là, qui est complètement dormant. Je veux dire, c'est sûr que c'est le fun de dire « Hey, ma maison, quand je vais prendre ma retraite, ça va aider à financer mes vieux jours, etc. » Mais objectivement, ta maison, elle génère aucune richesse dans la société. Donc, on est déjà dans un contexte où l'argent de tout le monde qui a des économies, de tout le monde qui a des investissements est principalement concentré, est principalement dormant et ne génère aucune richesse pour la société. Puis là, tu ajoutes un truc où tu dis tous ceux qui font de l'argent en investissant, ben eux, vous, on va vous pénaliser. Alors, c'est doublement négatif comme signal dans les faits parce que à moins de mettre juste ton argent dans des REER ou juste ton argent dans des CELIAP là, qui sont encore là pour générer et acheter des maisons, ben il y a aucune pression, aucune façon d'encourager les gens à investir davantage pour générer de la richesse dans l'économie. Mais le calcul d'Ottawa, cependant, la défense du gouvernement Trudeau, c'est que il était immensément coincé à partir du moment où tu décides que tu ne vas pas rationaliser les dépenses de l'État. Okay? Il y a quand même 59 milliards de dollars de dépenses sur 5 ans dans ce budget-là. Il faut que tu fasses rentrer de l'argent, là. Parce que sinon, la décote, elle va venir à un moment donné là, de la part des agences de cotation, puis ça va avoir un impact encore plus grand sur les frais de la dette et tout le reste. Il n'y avait pas 1000 options pour le gouvernement fédéral. Là. À un moment donné, soit tu taxes les grandes entreprises, et là, tu écris vraiment un budget à l'encre orange parce que c'est vraiment ce que Jack Meeting te demandait. Et le gouvernement voulait pas faire ça, de un, à cause des impacts économiques qui auraient été encore plus grands, parce que c'est le fun, puis c'est vendeur de dire les méchantes bannières d'épicerie, puis les méchantes pétrolières, puis les méchantes ci, les méchantes ça, mais dans les faits, tu vas les taxer, c'est qui va payer? C'est le consommateur, hein? Alors, il voulait pas faire ça pour des raisons économiques, des raisons politiques, etc. Et donc, à un moment donné, il n'y a pas 1000 façons de générer l'argent. L'autre façon, c'est d'augmenter la TPS. Mais là, imagine, je veux dire, le cauchemar politique, je veux dire, là, on a axe de taxes fois deux, là. Tu sais, là, Pierre Poilievre, je veux dire, il se loue un jet privé, puis il fait le tour du Canada sans arrêt à faire des rallyes, puis il va avoir du monde dans les rues, là. Alors, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce qui te reste? Ben, il te restait cette mesure-là, objectivement. Donc, je pense que le calcul politique du gouvernement fédéral, c'est que entre deux mots, le moindre, il a pris la mesure fiscale qui allait lui rapporter beaucoup d'argent, mais qui, objectivement, politiquement, serait la moins coûteuse, parce que, on s'entend, on parle beaucoup des gens qui ont des plexes, des économies, des mais c'est pas la majorité de la population qui a ça, là. Alors, tu touches pas généralement la classe moyenne, puis tu peux encore avoir ton argument que tu taxes les riches, tu peux générer des revenus, puis dans les faits, c'est quand même en termes de taxes sur l'investissement, ben la moins pire qu'ils pouvaient mettre en œuvre, tu sais. Alors, je pense que c'est de là que vient le calcul du gouvernement fédéral.
Emmanuel, est-ce qu'on se dirige vers un autre bras de fer entre Québec et les médecins?
Ben oui, mais on est tannés. C'est intéressant. Hier, j'interviewais le ministre de la Santé au bilan qui explique très clairement là, tu sais, qu'à un moment donné, cette prime-là, pour que les médecins prennent en charge des patients qui ont pas de médecin, puis en vérité, c'est pas une prise en charge par médecin, c'est comme un groupe de médecins qui va mettre ces patients-là dans son lot de monde qui ont des rendez-vous. Mais que finalement, ça marche pas aussi bien qu'on voulait, qu'avant de renégocier des primes, on veut être sûr que ça fonctionne. On n'arrête pas de parler du gap où finalement, le monde ne réussisse pas à avoir des rendez-vous. On s'entend, il y a du sable dans l'engrenage de cette affaire-là. Puis le gouvernement, à un moment donné, moi, je comprends très bien le ministre Dubé qui dit, écoutez, les amis, là, moi, je paye pas si j'ai pas le service, là. Terminé. Mais en même temps, de l'autre côté, tu parles à des médecins qui ont des GMF, qui ont embarqué dans le truc, qui ont inscrit plein de monde, puis disent, écoutez, il dit, ce 120$ par patient-là, on l'a pas mis dans ma, tu sais, c'est pas, je l'ai pas mis dans ma poche, là. C'est que pour inscrire plus de patients, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a embauché des secrétaires, on a embauché du personnel, on a embauché des infirmières. Et donc, on a besoin de cet argent-là. Si vous enlevez la prime, ben, nous, on va enlever le service parce que, on n'aura plus les revenus pour payer notre service supplémentaire. Alors, cherche-le qui a raison. C'est probablement quelque part entre les deux. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que depuis la pandémie, je pense que c'est la pandémie qui nous a allumés à cette dynamique-là, mais elle n'est pas nouvelle, c'est que finalement, le réseau de la santé carbure aux primes.
Ah, puis là, il y avait les primes de médecins spécialistes, la prime jaquette, la prime pour arriver à l'heure. Ça, c'était pire avant, tant qu'à moi, là.
Oui, mais alors, avant, c'était comme un geste de plus, une prime de plus. Puis c'est comme ça pour les médecins. Il y avait la prime jaquette, la prime ci, la prime ça. Ça, c'est toujours pour convaincre d'en faire un peu plus avec... Mais le pire, c'est que cette distorsion-là, c'est maintenant inscrite aussi dans le reste du réseau. Parce que c'est quoi le bras de fer, objectivement, autour des négos avec les infirmières et tout ça? Mais on est encore dans une logique de prime. La prime de nuit, la prime de corps défavorable, la prime de mobilisation, de déplacement, la prime de ci, la prime de ça. Alors, finalement, c'est comme si tout le monde a des primes dans ce réseau-là pour essayer de patcher un système qui est brisé. Mais en bout de ligne, le service n'est pas meilleur.
Bien. Puis ça, c'est un des problèmes, parce que moi, Emmanuel, je me mets dans les souliers du ministre de la Santé, Christian Dubé. Puis c'est correct, je vous donne une prime de 120 $ pour la prise en charge du patient. Il faut au moins que le patient puisse avoir un rendez-vous. Là, j'entends toutes sortes d'histoires que là, c'est pas le cas. Ils sont pas capables. Oui, ils ont un médecin en théorie, mais ils sont pas capables de le voir. Là, dans ce cas-là, je m'excuse, mais ça fonctionne pas.
Ils sont pas capables de le voir parce qu'il y a pas de plage. Ils sont pas capables de le voir parce que ces patients-là, pour avoir un rendez-vous, ils doivent appeler le GAP. Hein? Faut passer au triage. Et c'est le triage du guichet d'accès à la première ligne qui détermine si tu mérites un rendez-vous chez le médecin ou pas. Alors, le problème, est-ce que c'est les médecins qui n'ont pas de plage?
Ou c'est le système?
Ben non, il dit, on a tellement de plages horaires qu'on a pris, on a vu des patients orphelins dans les plages horaires qui avaient été rendues disponibles. Ou est-ce que c'est rendu qu'il faut que tu passes à la maîtresse de la santé pour qu'elle te dise si tu mérites de voir quelqu'un ou si tu peux te démerder en allant voir le pharmacien. Alors, il est où le problème? Je ne sais pas. Mais c'est quand même hallucinant que là, on est rendu dans un contexte où même quand tu es inscrit dans un groupe de médecins de famille, faut que tu passes au triage pour avoir le droit pour mériter le service pour lequel tes impôts payent. C'est quand même hallucinant.
Ah, c'est pas simple. Ah oui, c'est pas simple. On apprend dans le journal aussi qu'on n'a pas fini d'attendre dans les urgences, hein, que le délai moyen sur civière stagne. C'est pas simple. Merci beaucoup, Emmanuel.
Très bien, au revoir.
Salut.